Attendez, attendez. Voilà, vous partez d'ici. Voilà. C'est bien. Alors Melville, tu te mets en place. Qui partent après le parapluie bleu là. Allez vite, on y va. C'est bien qu'ils partent maintenant. Allez, on y va. Attention. Melville, t'es bon?
Ah, ils vont se multiplier.
Moteur.
Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas l'odeur.
On a tout vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On a tout vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
J'aime écrire, j'aime voyager et j'aime ce que le cinéma m'a toujours permis de vivre. Melville, un prénom romanesque et une vie qui l'est tout autant. Alors le voici, cet acteur voyageur avec nous ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous.
Il cherchait un enfant au visage très doux pour incarner le mal absolu. Et déjà l'ambiguïté dès le premier film à 10 ans. Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour.
De La Ville des Pirates de Raoul Ruiz à aujourd'hui, 35 ans de cinéma, vous ne les faites vraiment pas. Oui, à 10 ans chez Ruiz, à 20 Romer, 30 chez Ozon, 40 avec Xavier Dolan et tant d'autres encore. Un enfant qui a grandi avec les films, voyagé avec eux et un plaisir de jeu intact. 1000 Melville, c'est le titre de cette carte blanche que vous offre le Forum des images à Paris. Une carte blanche autour de l'enfance et de l'enfant acteur. Les films des autres, les vôtres et beaucoup d'invités. Du 18 au 26 septembre, nous essaierons nous ce matin de faire le tour du monde Melville. Enfin, les sorties cinéma d'une fête de famille au mariage de Vérida plus une fourmi, les hirondelles et la liberté d'Albert Serra. C'est parti.
Est-ce que je peux te demander une chose?
Oui.
Si tu pouvais sauver qu'une personne à la fois et que c'était la fin du monde, qui tu sauverais?
Personne.
Même pas moi?
Non, personne.
Est-ce que je peux te demander une autre chose?
Oui.
Est-ce que tu m'embrasserais sur la bouche?
Non.
Parce que je suis un enfant?
Merci pour l'anneau.
C'est rien, maintenant nous sommes fiancés alors.
J'étais un enfant très émotif, avez-vous dit un jour Melville Poupeau, et à 10 ans apparaît le cinéaste franco-chilien Raoul Ruiz qui vous propose le rôle de cet enfant diabolique dans L'île aux pirates. C'est quand même une entrée super fantasque dans le cinéma ça.
Oui, bah je sais pas ce que ça a donné en ce développement, sauf que je garde de très bons souvenirs de ce tournage qui aurait pu être traumatisant. C'était quand même une histoire d'un enfant qui assassine toute sa famille, qui, comme on l'entend là, se marie à 10 ans avec une Anne Alvaro sublime de 20 ans, ça, son aîné. Donc toujours un couteau à la main, du sang partout, mais c'était génial, j'ai adoré ça. Et Raoul a réussi à transformer cet épisode de ma vie un peu fondateur en conte de fées et en truc un peu merveilleux.
Ça aurait pu vous casser.
Ah bah oui, carrément. Comme tous les films d'ailleurs.
Et pourquoi ça vous a pas cassé d'ailleurs?
Grâce à Raoul et à sa fantaisie, au fait qu'il me parlait de Pinocchio, de Peter Pan, de Pinochet, de tout le monde en même temps, dans un espèce de grand délire surréaliste mais positif, enjoué, toujours drôle. Et qui me tirait vers le haut, en fait.
Vous l'avez vu, le film, à l'époque, une fois terminé? Vous vous souvenez?
Non, j'en ai aucun souvenir. Je sais qu'un petit camarade de classe l'avait vu, lui, et avait arrêté de me parler du jour au lendemain.
Il avait peur?
Non, il m'a dit, mais c'est nul, ton film, on comprend rien, c'est pas du cinéma. Il avait fait le critique. Enfin, comme tout le monde est critique de cinéma aujourd'hui.
Ça vous émeut de réentendre votre petite voix d'enfant?
Un peu, parce que je me rappelle, ce jour-là, j'étais frustré, j'avais un gros rhume. Et j'avais une tête pas possible. Et à l'oreille, ça va mieux. Je trouve que je joue pas si mal que ça. Mais à l'image, j'ai du mal à voir cette séquence parce que je me rappelle de ce rhume. Et c'est ça que je me dis, ah merde, j'aurais dû pas avoir ce rhume.
L'enfant acteur, c'est d'ailleurs un thème qui parcourt votre carte blanche au Forum des images. Nous avons retrouvé ce merveilleux doc. Quand j'étais enfant, je serais acteur. Je sais pas si vous connaissez d'Éric Guirado et Karen Marciano. Marciano, en voici un extrait. Écoutez bien.
Ce film immortel, Hadas ne voulait pas aussi, parce que c'était un film très violent, avec il y avait des doigts coupés, des boyaux et tout ça, mais quand j'ai tourné le film, tous ces trucs un peu horribles, comment expliquer, je sais que c'est faux, Je sais que par exemple, il y a un monsieur, il arrive avec son pistolet, il fait « Johnny, tu vas mourir ». L'autre, il fait « Non, non, Marc, t'as buté ma femme, ça te suffit pas ». Il lui tire une balle, il y a plein de sang, et après, il tombe. Et après, il y a le réalisateur qui fait couper. Et le monsieur, il se relève et dit « Vous étiez magnifique. Vous étiez vraiment dans le rôle. J'ai beaucoup aimé votre façon de... » Donc, je sais que c'est faux. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi on m'empêchait de tourner des films. Alors que je sais que c'est faux. Et je trouve pas ça horrible quand il y avait des boyaux et tout ça. C'est pas... Ils m'ont montré les faux boyaux et tout ça. Donc, c'était pas horrible du tout.
Des fois, il y a des personnes qui nous demandent de les aider. Et quand je fais un casting, c'est comme si le réalisateur me demandait « Est-ce que tu peux m'aider ?» à faire un rôle dans mon film. C'est comme s'il me disait ça. Ben moi, je lui dis oui, je vais t'aider. Parce que je vois que t'as vraiment besoin de ce film. Que tu veux vraiment le faire.
Moi, je pense que le meilleur moment de cinéma que j'ai vécu, c'est d'abord avec Jacques Villeray. Quand j'ai tourné Ma Barbe Princesse, là, j'ai découvert ce que c'était vraiment qu'un acteur. Et puis, je voyais aussi la façon qu'il avait de se concentrer... et de revenir à la réalité tout d'un coup et de se reconcentrer, de revenir à la réalité, de se reconcentrer. C'était, moi, pour moi, c'était très spécial. J'avais 9 ans et je connaissais pas ça. Enfin, moi, j'étais plutôt, on tourne une scène, ok, je me place là, boum, je me retourne, il faut que je dise ça, il faut que... Et puis lui, je le voyais avec ses fiches, en train de réviser son texte, en train de se répéter dans la tête, en train de regarder si le cadre ça allait, le son, le micro.
C'est ça, l'école. Elle est petite, hein.
Ben justement, comme ça, on s'occupera bien de toi. Alors, tu vois, c'était l'école de ta maman et aussi la mienne avant.
Ben, elle doit être vieille, la maîtresse.
Ouais. Alors, la fatigue pas trop.
Ce qui a changé dans ma vie, depuis que je fais du cinéma, c'est qu'à chaque film que je fais, j'apprends quelque chose. J'apprends la vie autour et je vois comment la vie, des fois, peut être difficile. Comment la vie peut être adorable, comment la vie peut être inadorable, comment la vie peut être difficile et...
Et tu regrettes des fois de pas
avoir pu rester un enfant plus longtemps?
Ouais.
Ouais. Ouais, j'aurais aimé être un éternel enfant. Et là, je suis en train d'essayer de reconnecter avec l'enfant pour mon travail, mais de me séparer de l'enfant pour commencer une vie d'adulte. Parce qu'il faut bien trouver à manger, savoir comment se loger, payer son loyer à temps.
Insurgée première.
Et ça veut dire quoi, insurgée première?
Je te le dirai après.
Ils sont d'une grande maturité, ces enfants. Je cite leurs noms. Max Bessette de Malglaive, Jolan Martin, Juliangelo Bigarnet, Victoire Tivisol, c'était la petite ponette. Mais c'est fou.
Ouais. C'est hallucinant parce que c'est un mélange d'enfance, de maturité, et puis surtout que quand on a vécu des expériences aussi fortes enfant, c'est fondateur, et on grandit avec peut-être une nostalgie de l'enfance, et ça crée des êtres particuliers, quoi, qui sont peut-être un peu inaptes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui continuent à faire une grande carrière. Parce que c'est peut-être trop fort à la base. Quoi.
Quand c'est violent, hein, c'est très violent.
C'est violent.
Mais oui, quand le petit Max Bessette de Malglaive dit bon, je sais que c'est faux, etc. C'est vrai qu'il faut dégager le vrai du faux quand on est enfant et qu'on se retrouve dans un film d'adulte.
Bah, c'est le devoir du metteur en scène aussi de préserver quand même, disons le
mental,
l'intégrité mentale de leurs personnages, enfin de leurs acteurs. Après, les enfants, c'est les rois du jeu. C'est eux qui jouent le mieux. Moi, quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à jouer avec des Playmobil, me raconter des histoires, incarner différents personnages. Donc, quand t'es enfant, t'as ça en toi, c'est naturel. C'est presque ta façon de voir le monde au travers du jeu. Et en grandissant, tu perds un peu ça. Enfin, la plupart des adultes le perdent. Alors que les acteurs, eux, ont encore cette connexion avec cette faculté de passer dans un autre monde. En fait, quand tu joues, tu rentres dans un autre monde. Il y a un bouquin de Huizinga qui est très intéressant, qui s'appelle Homo Ludens, qui décrit tous ces phénomènes, justement, où à partir du moment où tu commences à jouer, que tu as des règles et un cadre, bah tu quittes le monde réel pour entrer dans un autre monde, et les acteurs continuent à faire cette expérience.
Et la dernière qu'on a entendue, qui est Victoire Tivisol, qui était la petite ponette, elle raconte dans un autre endroit du documentaire qu'elle était accompagnée d'une psy quand même pendant le tournage. Elle était très jeune.
Oui, alors Doyon, moi j'ai tourné avec lui quand j'avais 15 ans. C'est pas Raoul Ruiz.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est très psychologique. Enfin, de mon point de vue, il y a beaucoup de psychologie, un peu de, pas de la torture mentale, mais enfin, il arrive quand même à
manipulation.
un petit peu quand même pour arriver à te faire bien jouer pour le bien du film et de ses intentions à lui, mais je me suis senti beaucoup plus épanoui et heureux et léger sur les films de Ruiz que sur un film de Doyon. Pardon pour lui, mais c'est vrai qu'il y a un univers, puis ces films aussi le décrivent, tu vois, c'est pas un joyeux de riz, quoi. Alors que Ruiz, il y avait toujours de l'humour, un second degré, une distance, une conscience de qui on avait en face, de comment lui faire du bien, toujours. Tous les gens qui ont travaillé avec Ron Ruiz nous diront c'était le type le plus généreux, le plus drôle, on a adoré travailler avec lui, il n'y avait pas de manipulation du tout.
Ruiz, le voici justement.
Entre-temps, on avait trouvé Melville, complètement par hasard. Il assistait à des conférences de presse de Les Territoires, à l'époque, parce que sa mère était attachée des presses. Et pour moi, la règle d'or, quand il s'agit de travailler avec des enfants, c'est de faire le casting plutôt des parents. Et après, les enfants, en général, sont bons, presque toujours. Au moins à cette époque. Maintenant, ça a un peu changé parce qu'ils regardent trop la télé, ils imitent l'enfant de la télé. Mais à l'époque, c'était plus innocent, plus frais.
Qu'est-ce qu'il est intelligent et inattendu, ce Raoul Ruiz. Le casting des parents, mais c'est vrai. Alors, les parents, parlons-en, avec une mère très présente, une femme qui était attachée de presse et qui rencontrait beaucoup de gens.
Chantal Poupeau.
Oui, et qui rencontrait beaucoup de gens. Et qui vous a aussi plongé dans un certain cinéma d'auteur, quand même.
Absolument. Mais pas seulement cinéma, parce qu'elle était aussi entourée de musiciens, d'écrivains, de journalistes, à l'époque, qui étaient aussi des intellectuels, disons.
Vous rencontrez Lacan chez elle.
Voilà.
Duras.
Je me rappelle que vous étiez un jour en voiture avec Lacan, et qu'est-ce qu'il vous a, il vous a dit quoi, Lacan?
Ah, je sais plus. Non, Lacan, j'étais quand même tout petit. J'ai un vague souvenir de
ça. Il a dit, ça roule, donc ça roule.
C'est
ce que vous nous aviez dit un jour.
Je l'identifie plus à Groucho Marx avec son cigare et ses lunettes, mais. Non, bah, j'ai eu de la chance. En fait, ma mère a été une femme qui s'est émancipée assez tôt, qui est donc née dans le... il y a longtemps, je vais pas dire sa date de naissance, mais je veux dire, qui a fait un parcours très symptomatique de la femme émancipée du XXe siècle. Elle est montée à Paris, mariée, puis finalement divorcée. Elle est rentrée dans le cinéma. Elle a côtoyé tout ce monde interlope des années 70, les gens du Palace. Le film de Eva Ionesco que j'ai fait, qui est sorti cet hiver, décrivait bien justement tout ça, les Pacadis, les Maria Schneider.
Et vous, petits garçons dans le salon, vous voyez tous ces gens défiler, et vous pensez quoi?
C'était pas une danse macabre parce qu'ils sont tous morts, mais enfin, il y avait un côté quand même à la fois joyeux, fête, et pour un petit garçon un peu inquiétant parce que tu voyais des personnages en manque, des personnages survoltés, des gens qui n'avaient pas les mêmes mœurs que mon père, par exemple.
Allongez-vous, justement, et votre père, Melville, et votre père.
Père, je l'embrasse, je l'adore, c'est un type fantastique, très cultivé, qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui aime bien le cinéma, mais qui n'est pas cinéphile. Et puis moi, j'ai été élevé par ma mère, ma mère et mon frère, je dirais, parce que c'était une petite cellule familiale, je voyais mon père de temps en temps, qui a toujours été un très bon père et qui m'a communiqué peut-être le fait d'avoir les pieds sur terre. Parce que, effectivement, Raoul Ruiz a 10 ans, ma mère dans cet univers du cinéma et tout ça. Bon, ma mère était quelqu'un de très sain mentalement, qui s'est jamais drogué ni rien, mais entourée de quand même de créatures, et encore aujourd'hui, elle a fait un film sur les crossdressers et elle est très branchée, transgenre, enfin bon. Et mon père, même à distance, m'a peut-être communiqué une réalité, enfin, une façon de rester un peu, les pieds sur terre.
Il y en a un qui l'aime beaucoup, votre père, c'est Lucchini.
Oui, à la chair. C'est le seul personnage de cinéma qui me parle de mon père, c'est Lucchini. À chaque fois que je le croise, il me dit, alors ce génie, il m'a tout appris, c'est lui qui m'a fait découvrir Céline, et tu l'embrasseras, c'est le type le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Et personne ne le connaît, mon père, sauf Lucchini, qui est obsédé par lui.
Vous sortez de ce film, et puis vous achetez une petite caméra, et vous commencez... Vous commencez à vous filmer, à filmer des films, réaliser, monter, parfois à la manière d'eux, des films noirs qui vous ont beaucoup inspiré, notamment comme Qui es-tu, Johnny Mac, 1984, vous avez 10 ans, et vous vous payez le luxe dans l'édition vidéo d'une présentation comme au cinéma de minuit de Patrick Brion.
Un détective privé alcoolique, une constante du film policier, un tueur à gages qui pourrait être le frère du héros de Graham Greene. Deux figures emblématiques du film noir. C'est à cette tradition que rend hommage Melville Poupeau dans Qui es-tu, Johnny Mac, tourné en 1984.
Tu vois cette arme? Tu la vois? Eh ben, elle est prête à tirer 6 balles de suite. Alors maintenant, j'espère que tu vas un peu réfléchir comme un adulte et enfin me dire où se trouve le pognon, ok?
Ah, je comprends, hein.
Toujours cette sale histoire. Vous n'avez pas fini un peu? Ça veut dire quoi tout ça? Il est infâme ce jean! Bon, alors maintenant c'est fini, j'ai bu la même connerie que toi. Et maintenant, mon vieux, tu vas me le payer. Dis-moi où je trouve le... T'es sanglé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent? J'ai rien, j'ai même pas de quoi me payer un café, un whisky. Je prends du gin. Un jukebox.
Vous avez pas honte, Melville, de passer ça sur France Inter, comme ça?
Je suis pas responsable. Non, mais on parlait des enfants qui jouent. Ben voilà. C'est un enfant qui joue tout seul à deux, quoi. Enfin, il y a une espèce de schizophrénie inhérente au jeu, à l'acteur. Voilà, donc qui est mis en scène dans ces petits films que je faisais quand j'étais petit. Et quand j'ai eu l'occasion de les montrer, de les travailler un petit peu au montage, j'ai demandé à Patrick Brion. Et je pensais le limiter, parce que quand j'étais petit, moi, ma cinéphilie, elle vient beaucoup du cinéma de minuit. Donc, je m'étais dit, je vais le limiter, jamais j'arriverai à avoir la voix de ce type. Donc, j'ai quand même envoyé une lettre en lui disant, est-ce que vous me permettez de vous parler de ce projet? Je lui parle de ça, il me dit, oui, j'aimerais bien le faire. Surtout qu'à chaque fois qu'on m'a imité, j'ai fait un procès. À l'époque, tout le monde l'imitait. Mais il y a des gens qu'on imitait à une certaine période de l'histoire qu'on n'imite plus, par exemple.
Oui.
Galabru, ce genre de personnes. Moi, quand j'étais petit, tout le monde imitait Galabru. Aujourd'hui, personne ne sait imiter Galabru. C'est un savoir qui se perd.
Oui.
Et Patrick Brion,
oui.
Nos jeunes auditeurs ne savent pas forcément que ce type était vraiment un professeur de cinéma.
Et que le cinéma de minuit existe toujours sur France 5, il faut le dire.
C'est vrai. Et Patrick fait toujours la...
Et
Patrick
Brion, bien sûr. C'est un homme charmant.
Et que sa vie est un film, puisque en fait, il m'avait raconté cette occasion qu'il avait engagé une speakerine pour faire la voix qui s'était pas pointée le jour de l'enregistrement. Et son pote qui enregistrait a dit, mais Patrick, tu dois le faire toi.
C'est ça le truc.
Et il s'est mis à lire. Et quand je l'ai eu au téléphone la première fois, il avait pas du tout cette voix. Et je me suis dit, mais c'est pas Patrick Brion, ça, c'est pas la voix du cinéma de minuit. Je suis allé dans son bureau, il me parlait. Et pendant tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas lui. Et il s'est mis à lire son petit papier qu'il avait écrit en voyant mes films. Et là, c'était Patrick Brion. C'était la voix mythique.
Vous continuez à faire vos films avec vos 1000 personnalités. D'ailleurs, c'est pour ça que cet hommage s'appelle 1000 Melville.
C'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais je l'ai cautionné.
Et ben, il est très joli. Et puis, un certain Éric Rohmer arriva. 1996, conte d'été, un jeune homme qui attend son ami pendant les vacances d'été à Dinard, fait la connaissance de deux autres jeunes filles. Entre les trois, le cœur de Gaspard balance-t-il vraiment?
Tu vois, même si je suis avec le type le plus moche, le plus insignifiant, c'est lui que les filles remarquent, pas moi. Et c'est pas parce que j'en fais pas assez, parce que plus j'en fais, moins ça marche.
Tu as fini de te débiner. Si c'est pas de l'orgueil, ça.
Non mais comprends-moi, c'est pas qu'on me trouve affreux ou débile. C'est plutôt qu'on n'arrive pas à me classer dans une catégorie. Par exemple, je fais jeune. On aimerait me trouver tout doux, tout mignon. Mais on s'aperçoit que je le suis pas. Alors on dit comme toi que je suis cynique.
Mais non.
Mais si. Et pourtant, au fond, tu es la seule fille à qui je ne sois pas antipathique. Est-ce que même Léna...
Oh, assez. Si tu continues, tu vas finir par le devenir. Tu dis que tu fais jeune. C'est vrai? Alors prends patience. Ton jour viendra.
Vraiment, tu crois?
Bien sûr.
Ah, la voix a pris un petit peu de maturité par rapport au court-métrage.
J'ai l'impression que je mue encore.
Ouais, vous dites, sur Rohmer, j'ai eu l'impression de ne pas seulement faire un film, mais de participer au cinéma en général.
Par l'entremise d'Éric Rohmer, qui était un grand génie.
Ouais.
Tout le monde le sait aujourd'hui. Dans le monde entier, il est reconnu comme un des grands du cinéma. Et je sentais particulièrement, je pense qu'il a été comme ça sur tous ses tournages, mais je voyais un type en pleine possession de ses moyens, et puis sachant qu'il voulait réussir à obtenir un grand résultat, quoi. Il avait hyper bien préparé son tournage. Il était brûlant sur le film, quoi. Tous les soirs, il regardait les rushs. À l'époque, c'était encore en cassette VHS. Attentivement, jusque tard dans la nuit, pour corriger ce qu'il pouvait corriger. Il était inspiré, quoi.
J'en ai eu quelques-uns. Vous ne cessez de marcher. C'est incroyable. Toutes les scènes, vous marchez.
Rohmer est un grand marcheur. Et puis, c'était pour aussi alimenter la parole, puis filmer les paysages, se permettre de super beaux plans de travelling avec une lumière de Diane Baratier, 35, qui est magnifique. Dans ce film, il y a, comme sur certains disques, il y a un morceau où le son est tout à coup magique. Chez Bob Dylan, ça existe souvent. Il y a des morceaux où t'as un son qui est différent des autres titres. Bah là, dans ce film-là, l'image est particulièrement lumineuse, brillante. Et voilà, il y a un truc magique qui s'est passé. J'ai l'impression.
Il trouvait que vous parliez pas assez fort, donc il allait dans la cuisine.
Mais d'ailleurs, c'est même beau parce que on entend le bruit de fond permanent de la mer, du vent et tout ça. Et malgré tout, on comprend ce qu'on dit. Et lui, son angoisse, c'était qu'on comprenne pas bien son texte. Parce qu'il n'y avait pas de micro à chef, parce que j'étais souvent torse nu sur la plage, des gens autour de nous, le bruit de la mer, du vent, donc, mais là, le son est très bon.
Il disait que vous étiez obligé de gueuler pour qu'il vous entende, parce qu'il disait, tu parles dans ta barbe, Melville.
Bah, c'est un défaut que j'ai eu et que j'ai peut-être encore des fois, j'ai pas fait de théâtre, donc, et puis la voix, je me suis rendu compte que c'était l'instrument, en fait, presque numéro un pour un acteur. Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que Marcello Mastroianni avait commencé à faire des films en son direct à partir d'une journée particulière et qu'avant, c'est que de la post-synchro. Et c'est un génie de la post-synchro. Tous les grands Fellini qu'on connaît, c'est lui qui s'est doublé en studio. Et il a au moins 5-6 voix. Et c'est sûr, quand t'es dans la fontaine de Trévise, si t'as un son direct, on n'entend rien, t'es obligé de gueuler. Tu joues pas pareil que si tu murmures à l'oreille, ça il la donne, à la mame, je sais pas quoi.
Et puis, vous en parliez tout à l'heure, il y a la fille de 15 ans de Jacques Doyon, là, un peu plus rigide dans la direction d'acteur,
plus de prise, puis c'était un rôle très douloureux, c'est l'histoire d'un type de 14 ans
qui se fait piquer sa petite amie par son propre père.
Oui.
C'est dur.
C'est traumatisant, pour le coup.
T'es sûr qu'elle va venir?
Non, il paraît que t'as pas appelé.
Oh, il aurait pu appeler aussi.
T'avais promis pour sa mère.
Avant, je voulais être sûr.
Toi, t'es jamais sûr de rien. D'abord, tu voulais être sûr de quoi?
Ta copine m'inquiète.
T'as peur d'elle?
Je vois pas très bien comment ça sera là-bas. Moi, et vous tous les deux. Je sais pas très bien comment vous êtes ensemble. Juste être de trop.
C'est ça que t'es pas sûr. En plus, c'est indiscret.
Je sais. Je sens pas de réponse à une question que je me posais à moi. Pas à toi.
Les filles de mon âge, j'en ai total. Pour elles, c'est pareil. Les types de son âge et plus vieux, ils pensent qu'au cul. En plus, elle est exactement comme un garçon. En mieux.
Bon, j'ai parlé pour 2 ans.
Je peux fumer une cigarette, je suis énervée.
Melville, c'est une évidence tranquille, avec la difficulté qu'il avait parfois à jouer certaines scènes et à être un peu plus audacieux. Voilà. Mais c'est peut-être la difficulté avec beaucoup de mecs. Mais c'était à la fois une difficulté là, le pousser vraiment beaucoup pour qu'il puisse être là, être vraiment présent. Et en même temps, si charmant comme jeune type que c'était difficile de ne pas aller très bien avec lui. Donc le tournage, une espèce de quelque chose qui était une simplicité quasi idyllique. Voilà.
Ouais, ça ne doit pas être simple. Vous avez dit, j'ai très vite compris que c'était un métier perturbant, qu'on pouvait développer des sentiments douloureux comme la frustration ou la jalousie.
Qui, moi?
Oui.
Sur ce film?
Ouais, par rapport à ce film-là. C'est compliqué quand le metteur en scène joue...
Avec Doyon, c'est compliqué.
Oui.
On l'entend quand il parle.
Oui.
On comprend pas bien ce qu'il veut dire. Ouais. Parce qu'il dit à un moment que je suis à la fois pas un grand acteur et après il dit que je suis un homme formidable et que ça s'est très bien passé.
Oui.
Donc sur le tournage, j'étais un peu perdu. Mais c'est comme il y a des metteurs en scène qui pensent que c'est en vous abreuvant de paroles que ça va passer, qu'ils vont réussir à vous manipuler, que vous allez être meilleur. Alors que jamais Ruiz ni Romer m'ont donné d'indication pour jouer.
Ça se sent dans votre voix.
Voilà, la prise de son du film de Doyon est pas excellente non plus par rapport à un Romer, par exemple. Même d'un point de vue technique, il y a quelque chose qui passe moins bien. D'ailleurs, le film est pas resté. Enfin, au moins qu'il soit resté, je sais pas, je m'en rends pas compte.
La fille des 15 ans?
Ouais.
Quand même, si,
oui. Ouais. 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 Bon. En tout cas, il passe au Forum des images. Voilà. Vous allez le voir dans ma rétrospective. J'en suis très fier.
Vous êtes face à Julie Godrèche et il y a une différence incroyable de maturité entre les deux personnages, mais les deux acteurs aussi.
C'était une embrouille, ce film. Je peux pas t'en dire plus. Tout le monde s'embrouillait, c'était une galère.
Alors on va passer à quelqu'un qui n'est pas une galère et avec lequel vous avez voulu tourner pendant longtemps, c'est François Ozon.
Ah.
Toujours très intéressé, ça va mieux là. très intéressé par son travail, vous êtes tourné autour. Et puis en fait lui, un jour vous l'avez invité à une projection de vos petits films justement.
Absolument.
Et c'est là où il s'est dit, parce que lui aussi faisait des films petits et ados.
C'était une évidence et puis maintenant... On a fait 4 films ensemble, là on vient d'en retourner un nouveau dans lequel j'ai un petit rôle, qui va être très très beau. C'est un teen movie, une histoire d'amour entre deux adolescents. Et on est devenu très proche, et de plus en plus proche, j'ai l'impression, avec le temps. Et notre collaboration se passe de mieux en mieux. Pour le coup, c'est très simple. On travaille bien ensemble.
Justement, alors, on a choisi Ce temps qui reste, le premier film que vous avez fait avec lui. Romain, c'est vous, un jeune photographe de 30 ans, apprend brutalement qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Donc l'idée du film, c'est comment vit-on quand on sait qu'on va mourir, quelle sensation, quelle décision. Une scène avec Jeanne Moreau, votre grand-mère, dans le film.
Attention, action.
Silence. Tu devrais parler à tes parents.
Mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi.
Pourquoi ?
Alors, ce que je pensais, c'est que Melville, peut-être, toi, tu étais de ce côté, du côté des tableaux, et Jeanne de ce côté-là. Je sais pas qui est le bon profil de qui, de...
Je m'en préoccupe guère.
Bon, ça tombe bien. Et Melville, j'ai pas vu quel était ton bon profil.
Ah bon ?
Ouais, c'est flatteur. Tu vois, depuis le temps. Non, c'est parce que t'es le mieux de face.
c'est vrai.
Non, des fois, t'as des profils qui sont bien. Alors, attention, on y retourne. Action.
Tu finis pas ?
Non, j'ai plus faim. Mais c'était très bon.
Force-toi, il faut que tu manges. T'as le droit.
Bah, j'ai tous les droits maintenant.
Tu m'en donnes une ? Alors, à qui t'en as parlé ?
À personne. Rien qu'à toi.
À tes amis, ton travail ?
Non, j'ai rien dit. J'ai pris de la distance, j'ai dit que j'avais besoin de vacances.
Et à ta sœur ?
Non, t'es folle, j'ai rien dit. Elle serait trop contente pour avoir pitié de moi, comme avec ses gosses.
Mais alors, y a pas de honte à faire pitié, à attendrir. Ce serait peut-être une occasion de vous parler.
J'ai pas envie. Pas avec elle.
Et Sacha ?
J'ai pas le courage.
Et pourquoi tu me l'as dit, à moi ?
Parce que toi, t'es comme moi. Tu vas bientôt mourir.
Gros enjeu en dehors du propos, Melville Poupeau, sur ce film, Le Temps qui reste. Parce qu'il a fallu, ça c'est technique, mais bon, c'est fort quand même, hein, faire de la musculation, puis maigrir énormément. Il y a même une cascade dans le film. C'est
Ah oui, une scène d'amour avec un garçon, c'est une cascade.
Non, se raser la tête en une seule prise.
Ah oui. Il l'a refait depuis dans L'Amant Double au début de ce film-là.
Parce qu'on a peur, vous faites ça pour le personnage, et puis vous devez avoir peur pour vous aussi.
Bon, pour moi, non, ça je m'en fous. Puis ça m'a fait du bien, et puis c'était une scène marquante. C'est vrai que sur le moment, c'est toujours stressant, parce qu'on a commencé la prise, j'ai allumé la tondeuse, j'ai commencé à me raser la tête, et j'ai dit « coupez, coupez, coupez !» Et que voilà, on pouvait pas se planter.
Là, faire, hein. Non.
Donc, ouais. Mais j'adore François Ozon, pour moi, c'est vraiment un... Ce qu'on peut faire de mieux, presque, je dis, parce qu'il y en a d'autres, mais dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il produit beaucoup de films... qui rencontre toujours un public, il essaye plein de choses à chaque fois différentes, il part dans plein de directions différentes, il travaille avec des acteurs d'horizons très différents. Enfin bref, c'est quelqu'un d'éclectique, de très très doué sur un plateau, il maîtrise le cinéma quoi.
Il contrôle tout de bout en bout.
Ouais, absolument.
Hein, jusque-là.
Il contrôle tout de bout en bout, il est très précis, c'est ce qu'il veut et il y a pas de chichi, il y a pas de manipulation, de trucs pervers ou de fausse intellectualité, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect pour lui. Ouais.
Jeanne Moreau.
Alors Jeanne Moreau, qu'est-ce qu'on peut dire encore moi, de mon point de vue, ce que je peux dire, c'est que j'étais assez flatté qu'on m'appelle quand elle est décédée. Parce que j'avais l'impression que les gens m'identifiaient à Jeanne Moreau, enfin en tout cas comme ayant été un de ses partenaires, alors que je l'ai croisé quelques jours seulement sur le film d'Ozon. Mais apparemment,
oui, mais quelle scène, quel rapport ça.
Je balance des trucs effectivement qui sont un petit peu...
Mais elle-même était quand même déjà... Enfin... Donc je veux dire, c'est une vieille dame qui parle à un moment.
Bien sûr, ça c'est aussi le talent d'Ozon, qui écrit des très beaux dialogues.
Oui.
Et puis j'ai un souvenir émerveillé de la chance que j'ai eu de croiser Jeanne Moreau. Je la voyais souvent après pour son anniversaire, parce qu'on est tous les deux du mois de janvier. Donc on s'est parlé beaucoup pendant une époque, beaucoup vu et beaucoup moins après. Et je regrette de pas l'avoir vue jusqu'à la fin. Mais je l'avais appelée, sachant qu'elle était pas bien vers la fin. Je l'avais eu au téléphone, elle m'a dit « Ah, alors comment ça va Melville ?» et tout ça. Et puis j'ai commencé à parler de cinéma et j'aurais pas dû, parce que j'ai senti que ça l'avait, qu'elle avait pas du tout envie de parler de ça. Et elle m'a limite raccroché au nez quand j'ai commencé à aborder le sujet. Je sens, et puis il paraît qu'elle était très seule à la fin, qu'à son enterrement il y avait très peu de monde. Enfin, c'est un destin particulier, quoi. C'est enfin, un destin fantastique. Elle a marqué l'histoire du cinéma, mais c'est une personne attachante et en même temps dure, enfin très complexe.
C'est un film sur la mort qui rôde. Donc, vous dites depuis mon enfance, je pense souvent à la mort.
Moi?
Oui.
Hein?
Non.
Comment?
Non.
Bah oui.
Oui. Non mais c'est drôle, petit.
Bah j'essaie de m'habituer à l'idée et puis d'apprivoiser le truc. Oui, bah c'est normal, je pense.
Vous êtes croyant, c'est plus facile.
Oui.
Autre rencontre avec un cinéaste pareil qui tourne depuis longtemps tout seul dans sa chambre, c'est Dolan. C'est peut-être ça qui aussi comme Ozon. Non, mais c'est vrai, ce sont des garçons qui sont complètement investis.
C'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que Ozon, moi j'ai fait des films en vidéo quand j'avais 8-9 ans avec ma caméra parce que j'étais précoce, j'avais de l'argent, j'avais tourné avec Raoul, enfin j'avais un accès au cinéma privilégié, alors que Xavier et François, je pense qu'ils ont commencé à faire des films très tôt, très jeunes. Xavier, il avait déjà fait plein de courts, enfin il connaissait par cœur le langage du cinéma, quoi.
Et là, il vous propose donc assez tard, hein, par rapport au tournage, Laurence Hemingway, 15 jours avant, je crois.
Ouais, sur ce... même moins.
Ouais. Mais c'est fou parce que c'est quand même un rôle énorme de cet homme.
Bah, c'est lui encore une fois, c'est son courage de
devenir une femme.
Ouais. J'étais censé faire un tout petit rôle de transsexuel, mais inversé, c'est-à-dire une femme qui était devenue un homme. Qui existe encore dans le film d'ailleurs, ce rôle-là. Et puis 10 jours avant le tournage, il m'appelle pour me dire « Est-ce que tu veux bien switcher et prendre le rôle principal ?» J'avais lu le scénario, j'avais même pas dit oui au petit rôle, tellement je me disais « Merde, putain, le rôle est tellement génial, le rôle principal, si seulement je pouvais faire ce rôle-là. » J'espérais en secret dans mon coin, comme les acteurs font souvent. Et puis ça s'est passé, il m'a appelé, il m'a dit « Il y avait un côté un peu miraculeux, comme un rôle qui, les acteurs disent ça, c'est un cliché, mais qui vous tombe dessus. » Et qui, voilà, j'étais prêt en fait, je me disais que c'était pour moi.
Encore un cliché, je sais pas, mais on dit souvent que le costume fait l'acteur. Non, là, en l'occurrence, c'est super
l'actrice.
Important. Oui, le costume fait l'actrice. C'est super important et c'est un truc que Dolan contrôle énormément, les costumes.
Pour moi, un costume, c'est tout un personnage. J'ai pas envie de déléguer ça à quelqu'un. Premièrement, j'aime la mode et si j'étais pas en cinéma, je serais en mode. Il y a rien de plus clair que ça. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et la mode, évidemment, c'est pas juste... C'est pas juste Fashion Week. La mode, c'est aussi la mode de tout un chacun. La mode, c'est comment les gens s'imaginent qu'ils peuvent s'habiller pour exister dans le regard de l'autre puis s'exprimer eux-mêmes. Donc, tu sais, Meryl Streep est une grande actrice, mais le problème, c'est que son costume a parlé bien avant elle. Avant qu'elle ait ouvert la bouche, on est censé savoir qui son personnage est. Sa perruque, son maquillage, tout ça vient de la devancer. Et c'est pour ça que les acteurs s'impliquent autant dans les costumes, construire un look. Et c'est pour ça que les acteurs détestent autant les réalisateurs et les costumiers qui méprisent leur point de vue. Parce que ça leur appartient après tout, c'est leur peau.
C'était votre peau, ouais. Parce qu'il fallait devenir femme et rester masculin.
Oui, ça c'était notre petit enjeu avec Xavier, c'était de garder une certaine virilité pour que le personnage de Fred, Suzanne Clément, ma femme, continue à quand même être attirée et amoureuse de ce type. Et qu'elle n'est pas homosexuelle. Donc si tout à coup elle se retrouvait face à un type qui se prend pour une femme dans les gestes, dans la mimique, je dirais, en train d'imiter la femme, elle serait plus amoureuse de lui. Donc il y avait ce truc-là qui était important. Mais Xavier, vraiment, c'est un type génial, fantastique. Tout ce qu'il dit là, je le prends pour moi à 100% parce que le costume pour moi, et de plus en plus, je me rends compte que c'est vraiment là que commence le travail. Je sais quand on fait des répétitions ou des lectures, avant le tournage, je sais pas ce que je fais. J'essaye de donner des tons aux phrases, de dire les trucs plus ou moins bien, plus ou moins fort, plus ou moins. Mais c'est quand j'ai le costume que tout à coup, c'est plus moi qui parle, c'est le personnage qui prend le pas.
Que d'expériences, que de voyages qu'on retrouvera donc dans cette carte blanche. 1000 Melville au Forum des Images du 18 au 26 septembre, avec beaucoup d'invités pour accompagner ces films, et puis des films sur l'enfance que vous proposez aussi.
Absolument. Et beaucoup de films projetés en 35 mm, avec des très belles copies. Le Forum des Images a fait un travail de recherche.
Bravo.
Après Aurel San, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Vous restez avec nous, bien sûr.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. 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 S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. 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 Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Les sorties de la semaine, on va commencer, Laurent, par un film d'animation, oui. Les Hirondelles de Kaboul, signé Eléa Gobé-Mevelek et Zabou Bretman. Été 98, Kaboul en ruine est occupé par les talibans, Mohsen et Zunaïra sont jeunes, ils s'aiment profondément, en dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leur vie. C'est adapté du roman de Yasmina Kadra. Alors oui, l'histoire est forte. La résistance à l'insurrection des talibans, l'animation épurée et belle à l'aquarelle, qui restitue l'atmosphère délétère, les voix des personnages très justes, joués par Zita Enroth, Yam Abbas, Swan Arlo et Simon Abkarian. Et la touche féministe de l'adaptation convaincante, la belle idée de Zabou Bretman de modifier l'activité de son héroïne avocate dans le livre, en dessinatrice dans le film, comme une folle provocation aux talibans. Certes, convaincus, nous le sommes tous de l'horreur de l'oppression subie, sans que le scénario ne prenne beaucoup de risques avec l'histoire.
Oui, moi, honnêtement, on sait bien depuis Valsaï Bachir, par exemple, que ce que peut produire de formidable l'animation politique, on va dire, c'est-à-dire le fait de prendre la réalité, mais sous la forme animée, et puis de la traiter de façon très très politique. C'est évident que ça peut se faire et que ça doit se faire. Mais moi, je suis un peu plus sévère d'ailleurs que vous, par exemple sur la forme. Je trouve que c'est assez plat tout ça. Quand on voit ce qu'un Sébastien Odenbach peut faire en animation maintenant, on se dit quel petit bijou comme ça, fragile, tout ça est bien fait, mais sans âme au fond, sans passion. C'est peut-être ça effectivement ce qui est le plus gênant, c'est que on n'a pas le sentiment que quelque chose d'incarné derrière est porté. C'est un bel objet finalement assez froid, ce qui est, vu le sujet dont vous parliez très bien, est assez paradoxal.
Viendra le feu, du cinéaste franco-espagnol Olivier Lache, il paraît que c'est comme ça que ça se prononce. Amador Corro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu'il sort de prison, personne ne l'attend. Il retourne dans son village, niché dans les montagnes de la Galice, où vivent sa mère et leurs trois vaches. Leur vie s'écoule au rythme apaisé de la nature jusqu'au jour où le feu vient dévaster la région. C'est vrai qu'il y a énormément d'incendies en Galice, où Les incendies sont provoqués pas forcément très naturellement, donc viendra le feu et selon ce réalisateur, un mélodrame sec, une psychologie ténue réduite à l'os.
Oui, enfin 85 minutes, c'est quand même bien long pour que vienne le feu, hein, puisque le programme est clairement dans le titre, hein, et bien il va venir le feu, c'est sûr, mais alors on l'attend, alors c'est volontairement austère, elliptique, légèrement hautain, avec un côté un peu chic, un peu fait pour les festivals, un peu arty, alors on filme les labeurs et les jours rustiques et agricoles, c'est un petit peu l'Angélus de Millet dans les Asturies, hein. Enfin voilà, j'ai pensé à ça, et puis le feu vient, et alors là, c'est aussi finalement très très long, ce feu, se tourner de façon assez complaisante, avec que finalement pas mal de clichés.
Fête de famille de Cédric Kahn, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. Andrea, Catherine Deneuve ne sait pas encore que l'arrivée surprise de sa fille aînée, Claire, c'est Emmanuel Berco, disparu depuis 3 ans, et bien décidé à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. Cédric Kahn l'a peut-être bien réalisé, son film Piala qu'il admire depuis longtemps, dont on sent un petit peu la patte dans cette histoire de famille, l'esprit et les influences, mais en moins cruel, disons plus ténu, et surtout plus théâtral, côté Tennessee Williams, mais nuancé, vaudeville. Ajoutez à cela le film dans le film, celui que réalise le jeune frère, incarné par Vincent McCain, sur la famille. Résultat, un psy show à la campagne, très bien mené et surtout emporté par deux grandes actrices, Deneuve, la mère impériale et dans un déni permanent, Emmanuel Berco, le visage de la vérité, si juste dans sa folie, de fille cassée, perdue, sacrifiée sur l'autel d'un compromis familial. Un jeu, je dirais, presque plus fort que le scénario, plus balisé des traumas familiaux.
Ouais, je serais plus enthousiaste parce que ce qui est intéressant chez Kahn, c'est son éclectisme. C'est-à-dire qu'il est capable de passer de Simenon au traitement d'un fait divers à la crise conjugale, comme on l'avait vu auparavant. Alors ici, on se dit, bon, le règlement de compte familial, c'est effectivement d'un convenu, d'un déjà vu incroyable. Et la question, ben, comment va-t-il faire? Eh bien, il fait avec une méthode tout à fait intéressante, c'est que ça démarre très doucement. On se sent précisément en terrain inconnu et on se dit qu'on n'a pas envie de revoir ça pour la énième fois, même si Deneuve est absolument impérial dès les premières images dans le rôle de cette grand-mère qui essaye de sauver les meubles et sa famille. Mais petit à petit, ce que arrive à faire Cédric Kahn, c'est effectivement un dérèglement de chacun des personnages qui prend une complexité étonnante, qui n'est jamais là où on l'attend. On n'arrive jamais à choisir le camp qu'on aimerait habiter dans ces différents familiaux. Et jusqu'au bout, cette note de la complexité est tenue avec en plus, et ça me ravit personnellement, deux chansons, l'une de Françoise Hardy, l'autre de Mouloudji, qui donne et qui vertèbre le film.
Le contraire m'eût étonné. Le mariage de Verida de Michela Occhipinti, c'est un film d'une extrême beauté, dit l'affiche. Hein,
on verra ça avec vous. Si elle disait le contraire,
c'est le premier film de fiction de cette réalisatrice italienne. Donc Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie entre ce travail d'esthéticienne et les sorties avec ses amis. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage. On lui demande de prendre du poids pour plaire à son futur mari. Et cette réalisatrice est inspirée, bien sûr, de la réalité mauritanienne. Ça donne quoi?
La réalité mauritanienne, ça serait ça l'intérêt principal du film. Il paraît que 40% des femmes mauritaniennes vivent encore sous ce joug-là du gavage, qui est une situation incroyable. Alors ça, c'est effectivement formidable. Seulement, la réalisatrice, elle vient à la fois du documentaire et de la pub. Ça se sent pour son premier long métrage de fiction, c'est-à-dire c'est beaucoup trop documenté, c'est-à-dire qu'on sent la volonté d'abonder une thèse, et puis avec des images d'une beauté entre guillemets publicitaire qui, moi, me laisse assez perplexe sur le fond et surtout l'adéquation entre ce qui est dit et ce qui est montré. C'est assez dommage.
Je passerai très vite sur Fourmi de Julia Rapneau. On dit que c'est un feel good movie, un film dans lequel on se sent bien. Ceux qui aiment le cinéma, on se sent pas très très bien dedans. On va aller directement à Liberté d'Albert Serra, à Cannes, où il était projeté Un certain regard. Beaucoup de fauteuils ont claqué à la projection. Libertin expulsé de la cour puritaine de Louis XVI recherche l'appui du légendaire duc de Valken, séducteur et libre penseur allemand. Leur mission, exporter en Allemagne le libertinage, Laurent.
Oui, on connaît le goût de Serra pour les figures mythiques du genre Don Quichotte, Louis XIV, Casanova. Cette fois, c'est Sade. Alors, pas de façon directe, mais enfin, il y a des citations, il y a un environnement sadien revendiqué. Alors, avec le côté parfaitement provocateur de Serra, la longueur des scènes, leur répétition, leur lourdeur, lourdeur, on n'a pas forcément envie de voir ces vieux personnages forniquer. On peut être sidéré par cette façon hypnotique, se dire que les enfers doivent ressembler à ça, que la chair est définitivement triste, oui, d'accord. On peut peut-être aussi avoir envie d'autres choses au cinéma, et ailleurs d'ailleurs, et ben, c'est un peu mon cas. Mais comme je sais que je parle en face à un admirateur d'Albert Serra, je vais donner la parole à la Défense.
Non, mais c'est pas ça, je l'ai pas vu ce film-là, mais je trouve que c'est un des rares metteurs en scène depuis ces 10 dernières années qui a amené quelque chose au cinéma, qui travaille vraiment avec le numérique de façon originale, qui reproduit pas les mêmes films qu'on fait depuis finalement le début du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent, qui sont en fait les mêmes qu'ont toujours existé. Je dirais lui et Pedro Costa, c'est les deux qui ont vraiment amené quelque chose dans la forme au cinéma.
On va terminer très vite, Laurent, sur River of Grass de Kelly Rickard. C'était son premier film. Cette cosy vit seule dans un mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir danseuse, gymnaste. Un nuit dans un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi. Donc une mère sans enfant, sans emploi, avec beaucoup de cinéma à l'intérieur déjà.
Exactement, ouais. Film inédit en France, hein, il faut le dire, et il faut découvrir ce film d'une cinéaste dont on sait maintenant qu'elle est l'une des cinéastes américaines très très importantes. Voilà.
Qui décrit, elle, l'Amérique ordinaire.
Exactement, de la Floride en l'occurrence, mais une Floride qu'on connaît vraiment pas.
Deux petits festivals pour terminer très vite, l'Étrange Festival jusqu'au 15 septembre au Forum des Images, encore décidément. C'est leur fête aujourd'hui, 25e édition, et le festival de Deauville, à Deauville, 45e édition.
Oui, du 6 au 15 septembre prochain, avec dans le jury Deneuve, Aurel San, Claire Burger, Nicolas Saada, entre autres.
Un petit cadeau pour vous, enfin moi je trouve que c'est un magnifique cadeau. Mais bon,
oui.
C'est un premier film réalisé par un acteur, Jonah Hill, avec un jeune acteur au centre, beaucoup de musique, et donc vraiment un film pour vous. C'est la plus belle surprise américaine de l'année, qui sort en DVD. C'est l'histoire d'un apprentissage, celui d'un jeune garçon, Stevie, dans le Los Angeles des années 90. C'est la métaphore du skateboard pour l'élever vers l'âge adulte et trouver sa place entre une mère absente et un grand frère caractériel. Un été où sa vie va changer, une description si juste des affres de l'adolescence, les tentatives, les tentations. C'est merveilleusement filmé, ressenti, universel aussi, avec en prime une BO d'enfer.
C'est chez qui l'éditeur pour nos auditeurs? On ne sait pas.
90s, voilà, c'est
cas,
chez...
On le recommande aussi chaudement à nos auditeurs.
Diafana,
voilà.
Diafana qui avait distribué le film, bien sûr. On va vous dire merci Melville, vraiment.
Merci beaucoup.
On vous retrouvera bientôt dans le Polanski, mais ça c'est une autre histoire. Et on vous retrouve au Forum des Images. Mille merci du 18 au 26.
Mille merci Melville.
Mille merci, pardon, mille Melville. Et on vous laisse les clés du générique, c'est à vous.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Des prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Melville Poupeau, j'y étais.